Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer une excellente soirée ensemble, puisque ce soir, j'ai deux invités de feu. Commençons tout de suite avec mon premier. C'est un retour à ce que j'adorais jaser dans le temps, puis j'aime encore jaser. On parle de psychologie, c'est le retour de Marc-André Dufour, qui est psychologue clinicien, je pense que c'est comme ça qu'on peut dire ça. Ouais. Marc-André, j'ai eu l'occasion de te rencontrer il y a de ça quelques années, puis par la force des choses, ben, ta liste d'attente s'est augmentée. Puis à un moment donné, j'avais plus accès rapidement à toi pour parler des divers sujets de psychologie avec lesquels j'aimais jaser avec toi. Puis là, ben, tu nous présentes ton nouveau bébé qui est « Se donner le droit d'être malheureux ». Et je trouve ce livre fortement intéressant. Mais je vais juste te dire une chose. J'avais un malaise au départ avec le titre.
Ben, je comprends. Hein, qui a le goût de... OK, go, moi, je veux être malheureux, tu sais, ça, c'est pas très vendeur.
Hein. Exact, exact. Et au fur et à mesure que le livre, qu'on lit le livre, on comprend ce que tu veux dire. Ouais. Puis après ça, tu sais, quand on regarde la page couverture, là, on dit, OK, le mal est en jaune. Puis après ça, se donner le droit d'être heureux.
Eh oui.
J'ai trouvé ça formidable. On va parler de ton livre, bien entendu. Oui. Tout d'abord, pour les gens qui ne te connaissent pas, ça fait combien de temps que tu exerces le métier de psychologue? Puis pourquoi avoir choisi une branche de la psychologie qui est... On va se le dire, qui aide énormément de gens, mais qui peut parfois être lourd pour toi.
Oui. Ben écoute, ça fait 25 ans que je pratique en tant que psychologue.
Ouais.
Mais si je compte mes années de bénévolat au Centre de prévention du suicide de Québec, là, ça fait 30 ans que je fais de l'intervention.
30 ans d'intervention?
Oui, ouais, 30 ans, c'est ça. Puis pourquoi? Ben bon, comme psychologue, c'est sûr que je te raconterai pas ma vie personnelle, mais quand même, pour des raisons personnelles, la mort a fait partie de ma vie depuis très, 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 très longtemps. Okay. Quand j'étais jeune enfant, j'ai une amie qui est décédée à l'adolescence, d'autres amis, etc. Puis ça m'a amené un peu trop de bonheur à me poser des questions existentielles. Tu sais, du genre, est-ce que les pissenlits, ça vaut au paradis? Qu'est-ce qui arrive avec les fourmis? Tu sais, j'étais petit, puis tout ça.
Ouais.
Puis je me souviens, je posais plein de questions à ma professeure en première année, puis elle me trouvait tannant. Elle m'avait fait rencontrer le curé à un moment donné, parce que je me demandais...
Marc-André, il est possédé!
Ah non, mais quasiment, oui, c'est ça, elle m'a fait faire un exorcisme. Mais c'est ça, je me demandais, qu'est-ce qui se passait avec tout ça? Tu sais,
ouais.
Puis ça m'a jamais lâché. J'ai fait énormément de lectures, je m'intéressais à la philosophie, le sens de la vie, mais j'avais envie de faire de quoi d'appliquer.
Mm-hmm.
C'est une espèce de philosophie, mais qui sert concrètement au quotidien. Puis à un moment donné, je me promenais sur la rue Saint-Jean, je suis passé en avant d'une bâtisse, il y avait une enseigne sur laquelle était écrit « Centre de prévention du suicide de Québec ».
OK.
C'était en face du poste de pompiers sur la rue Saint-Jean, puis là, je me suis dit « Ah ouais ». Je pense que s'il y a une place où on peut parler de questions existentielles, de la vie, de la mort, à quoi ça rime tout ça, c'est probablement dans cet organisme-là.
Ouais.
J'étais trop jeune à l'époque, mais aussitôt que j'ai eu l'âge de 18 ans, tout ça, j'ai fait les démarches pour devenir bénévole. Puis c'est comme Obélix qui est tombé dans la marmite.
C'est quelque chose qui t'a toujours intéressé. T'as toujours voulu chercher à comprendre pourquoi des gens pourraient peut-être être portés à mettre fin à leur jour.
Ça, mais aussi toute la question de la vie, toute la question de à quoi ça rime tout ça. Toi ou moi, on peut mourir demain dans un accident.
Ben, c'est la finalité.
Exactement, tout ça. C'est quelque chose qu'on met beaucoup de côté. On y pense pas au quotidien parce qu'on fait nos affaires, puis c'est aussi bien comme ça.
Oui.
Mais en même temps, c'est quelque chose qui est présent. Puis quand on s'y arrête, ça nous amène à faire des réflexions sur notre vie qui sont quand même assez profondes. Puis en arrivant au centre de prévention du suicide, évidemment, on a une formation qui est quand même assez longue, mais aussi assez rapidement, on écoute des interventions sans nous-mêmes intervenir. Puis là, je me suis rendu compte qu'il s'en passait des affaires, là. Tu entends la mère endeuillée qui a perdu son fils.
Ouais.
Tu entends la jeune femme qui appelle parce que son chum a eu des propos suicidaires, elle ne sait pas quoi faire.
Mm-hmm.
Quand je sortais de cette place-là, je me disais, OK, il s'en passe des affaires.
Ouais.
Il y en a de la détresse. Il y a des gens qui ont besoin. Puis si je peux faire quelque chose pour aider les gens... Tu sais, des fois, on cherche un sens à sa vie. Mais je te dirais que quand on a la chance d'aider le monde, on ne se la pose pas tant, cette question-là. Tu sais, on le voit, on voit ce que ça donne, ce qu'on fait, puis on voit que c'est important.
Fait que toi, c'est là que tu l'as découvert.
Ouais. Ça m'a jamais lâché.
Comment est ton accueil par rapport au malheur des gens? Tu sais, puis je vais expliquer ma question. J'ai animé très longtemps des tribunes libres le soir.
Oui.
Puis les gens avaient l'impression, parce que des fois, j'étais le seul à qui ils parlaient dans la journée,
mm-hmm.
ou d'autres, le soir, étaient à la maison, étaient seuls, ils ouvraient la radio, puis ils avaient l'impression d'être un ami. Donc, ces gens-là se confiaient. Des fois, ils m'appelaient à la radio, ils n'avaient pas vraiment l'impression d'être à la radio. Ou des fois, ils m'écrivaient sur Messenger. Maintenant, les gens qui travaillent à la radio ou à la télé, on est très, très, très accessibles. Puis ils me partageaient des choses qui étaient très, très personnelles à eux. Puis parfois, j'accumulais ces petits malheurs-là. Puis je sortais ça de la job, puis j'amenais ça chez nous.
Ça peut être lourd.
C'est vraiment lourd pour les gens qui travaillent comme bénévoles pour aider les gens. C'est quoi les petits trucs que vous aviez, que le Centre de prévention du suicide vous donnait pour justement pas traîner ça à la maison? De dire, hey, ça, c'est un malheur que tu as accueilli, mais il ne t'appartient pas.
Oui, ben je dirais que c'est les mêmes trucs qu'on peut avoir dans la vie pour faire face à l'adversité de façon générale.
Ouais.
Et un des plus importants, c'est de ne pas rester seul avec ça. Tu sais, que ce soit une mauvaise nouvelle qu'on vit dans notre vie personnelle ou parce qu'on consacre notre vie à aider des gens en difficulté, si tu entends cette souffrance-là que tu la gardes pour toi puis que tu accumules tout ça, à un moment donné, ça peut devenir lourd. Mais quand on travaille en équipe, qu'on raccroche le téléphone puis qu'on est avec une autre personne, qu'on jase la situation qu'on a eue, au Centre de prévention du suicide, on était suivi. Il y avait une professionnelle, on avait des rendez-vous fixes dans lesquels on s'assoyait avec quelqu'un.
Wow.
On revenait sur des situations, on revenait sur comment on se sentait, etc. Donc, il y a vraiment un encadrement. Puis comme psychologue aujourd'hui, c'est la même chose. Ce travail-là ne peut pas se faire toute seule. Il faut qu'on prenne soin de nous-mêmes. Tu sais, les cordonniers mal chaussés, quand on vient en aide à des personnes en détresse, ça fait pas long feu, je dirais, parce que ça devient trop lourd.
Ben, c'est
sûr. Toute l'hygiène de vie, toute la santé physique, l'entraînement, la respiration profonde, décrocher, la nature, n'importe quoi, dans le fond, n'importe quoi qui nous fait du bien, mais il faut l'appliquer.
Christian Houd, qui était psychologue, avec qui j'avais l'occasion régulièrement de jaser, m'a appris plein de choses. Puis parmi les choses qu'il m'a appris, c'est que les psychologues aussi, parfois, doivent se délester du malheur qu'ils reçoivent. Puis ils ont besoin, des fois, de jaser avec d'autres psychologues.
Ah ben oui, ben je vous dirais que, honnêtement, je ne connais pas de psychologue qui a jamais été en psychothérapie. Ça serait un non-sens. Il faut soi-même avoir changé de chaise. Tu sais, être dans le rôle de celui qui aide, c'est une chose. Mais il faut, pour être un bon psychologue, il faut aussi avoir l'expérience d'avoir été le patient, puis de l'être régulièrement. Donc, il ne faut pas tarder à aller consulter pour soi-même. Puis il y a toute la question de la supervision aussi. C'est obligatoire. Tu sais, l'Ordre des psychologues du Québec, là, ça protège le public. Fait qu'on s'assure comme ça que les psychologues aient de la formation. Parce que pour rester compétent dans ce qu'on fait, puis pour avoir un sentiment qu'on est capable de faire une différence dans la vie des autres, bien, il faut se former, il faut se faire superviser, on n'a pas la science infuse, il faut s'asseoir des fois, puis que quelqu'un nous dise « Ah, ce que tu as fait là, je suis pas convaincu que c'était la meilleure chose, on pourrait travailler ça autrement. » Puis on se développe constamment. Mais une chose aussi que je dis souvent, c'est que les gens disent « Ok, oui, tu vois beaucoup, comment tu fais pour entendre tout ça? » Oui, il y a beaucoup de souffrance, mais ce que je vois surtout, c'est des gens qui acceptent de se montrer vulnérables devant moi, qui acceptent de ressentir des émotions douloureuses, qui acceptent de se dire « OK, là ça ne marche pas mon affaire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Puis ce que je vois, c'est des gens qui se reconstruisent. Puis oui, c'est difficile. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est des vraies montagnes russes. Mais avec le temps, ce qu'on se rend compte, c'est que la personne a fait des prises de conscience. Puis c'est des prises de conscience qui vont changer complètement le reste de son existence.
Ouais.
Fait que ce qu'on voit entre le point A et le point B, que ça prenne un an, que ça prenne deux ans, bien, rendu au point B, là, moi, j'ai des personnes qui disent « Eh mon Dieu, mais comment t'as fait pour m'endurer, des fois? » Tellement ce qui allait pas bien. Ouais. Ben, à un moment donné, il y a un gars qui m'a dit « Je comprends que je me comprenais pas. J'avais juste à peu près 5 mots pour exprimer mes émotions, puis c'était des sacres. » Je veux dire, comment tu fais pour faire un sens avec ce que tu vis quand t'as même pas l'habitude d'entrer en contact avec ton monde intérieur, de savoir comment tu te sens, de mettre des mots là-dessus? Fait que quand tu t'assois devant un professionnel, il agit comme un interprète émotionnel.
Donc, Marc-André Dufour, qui est maintenant rendu psychologue et clinicien, qui écrit des livres, se donner le droit d'être malheureux, on va en parler d'ailleurs. Toi, tu as fait des années de bénévolat au Centre de prévention du suicide. Est-ce que c'est ce travail-là bénévole qui a fait en sorte que ça a déterminé ta profession plus tard?
Oui, absolument. Peut-être que j'aurais pu aller vers la recherche à l'Université Laval dans ces années-là. C'était très, très, très encouragé d'aller vers la recherche. Et moi, j'ai travaillé avec des rats que je faisais promener dans des labyrinthes pour étudier la mémoire. Tout ça, c'était quand même intéressant. Mais en parallèle, quand j'allais au Centre de prévention du suicide puis que j'aidais concrètement du monde, je me disais « Ah non, moi, je vais m'orienter vers la clinique ». Puis j'ai pas été bénévole si longtemps que ça. Assez rapidement, je suis devenu employé, je suis devenu intervenant de crise. Et là, on était appelé à se déplacer à domicile.
Okay.
Puis dans ce temps-là, c'était avec un pagette. Ça pouvait être pour intervenir avec une personne que les policiers étaient rendus sur place, la personne était en crise, elle avait besoin de parler à quelqu'un. Ou, malheureusement, ça pouvait être pour intervenir après des suicides. Puis je te dirais que d'avoir fait ça vraiment souvent, à chaque fois, je me disais, qu'est-ce qui est arrivé? T'sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que cette idée-là, elle a fait son chemin, elle a germé. Puis là, je me retrouve dans le salon d'une famille à consoler des enfants, à intervenir auprès d'une conjointe qui est complètement en crise. T'sais, qu'est-ce qui aurait pu... Dans quel monde on aurait pu vivre pour que cette personne-là elle aurait pu dire « Moi, ça va pas. » Puis avant de commettre un geste irréparable, puis un geste dommageable comme celui-là, je vais aller chercher de l'aide. Fait que ça m'a tellement marqué qu'en parallèle de mon rôle de psychologue intervenant, clinicien,
ouais.
j'ai toujours trouvé important d'aller dans l'espace public, de faire de la prévention qu'on appelle primaire, c'est-à-dire que avant la crise, la personne qui écoute actuellement, qui va bien, mais qui commence peut-être un peu à vivre des choses difficiles, bien, j'aime ça avoir un espace pour dire à la population générale, attendez pas. Puis tu sais, des fois on entend ça, moi je choisis le bonheur. Le bonheur, c'est comme le sucre à crème, si t'en veux, si tu t'en veux, tu t'en fais.
Des petites phrases mielleuses.
Bien, des petites phrases mielleuses qu'on voit beaucoup dans les médias sociaux, bien la réalité, c'est pas ça. Puis tu sais, se donner le droit d'être malheureux, c'est un peu comme une manière de m'inscrire en faux par rapport à tout ça. Parce que si les malheurs font partie de l'existence, bien, il faut qu'on se donne le droit d'être en contact avec ça. Parce que s'obliger à avoir une image de force puis de performance en tout temps, ça nous isole, ça fait en sorte qu'on se sent honteux de vivre des émotions qui sont douloureuses, mais qui font partie de la vie.
Mais encore aujourd'hui, en 2024, parce que, tu sais, je sais pas si toi, tu te souviens de tes grands-parents, mais je me souviens des grands-parents, c'était des gens qui étaient extrêmement forts, qui devaient vivre toutes les douleurs possibles. Il n'y avait pas toutes les ressources qu'on peut avoir aujourd'hui. Puis ces gens-là gardaient tout pour eux constamment. Ouais. Puis ils libéraient ça d'une façon différente. T'sais. Les grands-parents allaient dans le bois, ils travaillaient extrêmement fort pour aller une tasse le soir. C'était comme leur médicament.
Oui, c'était, ouais, absolument.
C'était leur médicament pour essayer de s'en sortir, pour recommencer le lendemain. Est-ce que tu as commencé très jeune, tu n'as pas accumulé énormément de décennies d'expérience, mais avec les années du jour 1 où tu as commencé comme bénévole au Centre de prévention du suicide versus aujourd'hui en 2004, est-ce que tu constates que les gens sont un peu plus aptes à discuter, à jaser de ce qu'ils ressentent, les gars? Moi, je pense souvent aux gars, c'est aux gars que je parle à radio majoritairement du temps. Ces gars-là, ont-tu appris à livrer leurs émotions? Si oui, pourquoi il y a autant de monde sur les listes d'attente pour des psychologues?
Ouais. Bien, j'observe que ça progresse. Mais ça progresse vraiment pas si vite que ça. On en entend parler beaucoup plus de santé mentale. Tu sais, quand tu vois un gars comme Georges Saint-Pierre qui dit qu'il prend une pause pour sa santé mentale, un gars comme Étienne Boulay, tu sais, des modèles masculins traditionnels qu'on n'associe pas en termes d'image à la vulnérabilité, c'est sûr que quand ces gars-là osent mettre un genou à terre puis qu'ils en parlent, ça fait une différence. Moi, j'ai déjà vu ça à mon bureau, un gars qui arrive, qui débarque en disant ça. Genre, si Georges Saint-Pierre a le droit d'aller consulter, j'ai le droit moi aussi. Fait qu'en ce sens-là, ça évolue. Mais quand même, on est beaucoup dans un monde d'images. T'sais, puis je pense que la question des médias sociaux, en ce sens-là, n'aide pas nécessairement. C'est une espèce de réalité dans laquelle ben, on est beau, on est joyeux, les belles photos de famille, les belles photos de voyage, la famille parfaite. Quand ça va pas bien, oser le dire, ça reste encore un défi. Peut-être pas comme il y a 30 ans ou il y a 40 ans, mais ça reste encore vraiment difficile. Puis les gars, encore, ont tendance à consulter quand ça casse. Quand il y a un ultimatum.
Quand c'est trop tard.
Quand, il est jamais trop tard, mais c'est quand vraiment ils sont au pied du mur. Puis là, c'est la conjointe ou le conjoint qui dit, là, si tu consultes pas, là, moi, ça marchera pas. Ou c'est le boss qui dit, là, ça marche plus ton affaire, faut aller chercher de l'aide. C'est ça qui est un peu dommage. Mais en même temps, si quand le gars va chercher de l'aide, il se confronte à une liste d'attente d'un an, un an et demi, puis qu'il a attendu à la dernière minute, puis qu'aujourd'hui, il est en crise, puis c'est là qu'il a besoin. Ouais. Il y a vraiment un problème dans le système. Là.
Oui, tu sais, je veux pas faire de politique avec toi, mais nécessairement, on n'a pas le choix d'en parler. quand il y a eu le massacre à l'Halloween, j'ai vu des politiciens sortir en disant que ce qui s'était passé là, ça avait aucun bon sens, puis ça arrivait un peu pendant la pandémie. On sentait que le moral des troupes était pas à son meilleur. Puis je me souviens de M. Carman puis de Mme Guilbeault qui était sortie en disant « On va donner 100 millions de dollars pour l'aide psychologique. » Puis quand je parle avec des intervenants qui sont en théâtre de guerre, eux autres disent ben, « Ils l'ont peut-être donné, mais on l'a pas vu passer. »
Non, c'est clair. je ne sais vraiment pas où est-ce que c'est allé concrètement. Mais en même temps...
Les listes ne diminuent pas. Puis, moi, en tant qu'animateur de radio, je n'ai pas votre expérience. Je ne suis pas en théâtre de guerre, mais je reçois les commentaires des auditeurs qui ont besoin d'aide dans le « ici » et le « maintenant ». Puis quand au privé, c'est 2, 3, puis 4 mois d'attente, je trouve que c'est long. Puis quand au public, c'est un an et demi d'attente, ça va pas là. T'as besoin d'aide là.
Effectivement. Mais là, il faut faire attention à quelque chose. Là, c'est Il y a des services de crise 24/7 disponibles. Tu sais, là, maintenant, pendant qu'on se parle, si quelqu'un va sur le site suicide.ca, qui appelle au 1-866-APPEL, c'est un être humain qui va répondre. Il va avoir de l'aide là, immédiatement.
C'est important de le dire, ça.
Vraiment, c'est vraiment, vraiment important. Prenez pas pour acquis qu'il n'y aura pas d'aide. Tu sais, je vais faire un parallèle. Tu sais, c'est comme si les pompiers sont encore là. Tu sais, fait que si ça flambe, si ça brûle, pour vous, pour quelqu'un d'autre, appelez le 1-866-APPEL, faites le 811 info sociale, ils vont vous orienter. Il y a quelqu'un qui va éteindre le feu. Ça, ça va aller à l'hôpital directement. Ou pire, là, si vraiment vous êtes super inquiet pour votre sécurité, pour celle de l'autre, faites le 911. Les policiers sont habilités à intervenir dans ce type de situation-là. Peut-être que le deuxième invité va pouvoir vous en parler.
Ouais.
Mais ça, c'est encore là. Ce qu'il y a moins, ce qui est difficilement accessible, c'est l'expert en sinistre. C'est-à-dire, une fois que le feu est éteindu, la personne est à l'hôpital et plus en crise stabilisée. Le suivi.
Celui qui va te donner une boîte à outils.
Oui, celui qui va dire, OK, qu'est-ce qui est arrivé ici? Pourquoi ça a viré comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le diagnostic? Qu'est-ce qu'on peut faire pour plus jamais que ça se produise? Puis accompagner là-dedans, c'est ce bout-là, malheureusement, qui prend plus de temps. C'est ça, la psychothérapie. Okay.
Donc, analyser les besoins de la personne, les problèmes de la personne, puis après ça, donner des pistes de solutions. Donc, la boîte à outils, fameuse
boîte à outils. Oui, l'accompagnement. Faire un suivi, parce que c'est long. C'est souvent, la personne qui vient consulter, la personne qui est en crise, là, il se passe pas des choses depuis une semaine dans sa vie. Là. Souvent, c'est un cumul. Des fois, c'est des choses qui remontent à il y a super longtemps, qui refont surface, qui se mélangent avec des affaires d'aujourd'hui.
Ouais.
Donc, faut faire une analyse pour comprendre exactement qu'est-ce qui est arrivé chez cette personne-là. Puis ça, c'est personnalisé. Tu sais, on ne peut pas demander à un guide d'auto-soin là, en disant à la personne, garde, va sur ce site Internet-là, tu vas voir, ça va t'aider. Ça peut aider, ça peut donner des trucs, mais il n'y a jamais rien qui va remplacer s'asseoir avec une personne dans un bureau puis discuter. Avoir une conversation, oser se montrer vulnérable devant quelqu'un. Puis souvent, ce qui nous blesse dans la vie, ce qui nous fait mal, ça a rapport avec des relations. Que ce soit des vieilles blessures ou des blessures d'aujourd'hui, il y a souvent d'autres êtres humains impliqués là-dedans. Fait que souvent, la réparation va passer aussi par une relation. Fait qu'on peut pas dire à la personne, reste chez vous, lis des dépliants, puis tu vas voir, ça va bien aller. Ça peut aider, okay. Mais ça prend plus que ça.
Il me reste à peu près trois questions avant. Puis, en fait, deux questions, puis un où je vais étaler des préjugés que la société peut avoir. Puis moi aussi, j'ai fait partie des gens qui avaient ce type de préjugés-là. Quand vous discutez avec quelqu'un, comment vous faites pour être capable d'établir que c'est la bonne version? Dans le sens où, si quelqu'un consulte, exemple, parce qu'il y a une mauvaise relation avec ses collègues ou avec sa conjointe ou avec ses parents, on est toujours le héros de notre vie. Hein?
Ah, absolument.
Comment vous faites pour retirer un petit peu la portion héros et dire, t'as peu, il y a peut-être deux côtés à cette médaille-là de ce que je me fais raconter? Tu sais, pour être sûr et certain d'avoir le topo idéal.
C'est une excellente question. C'est de valeur qu'on n'ait pas une heure devant nous pour y répondre. Mais je dirais, ben d'abord, on ne prend jamais ce que nous dit personne pour du cash, en aucun cas, dans le sens qu'on travaille avec des représentations. C'est-à-dire, la personne, elle nous arrive, elle nous partage des choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne la croit pas, mais ce qu'on accueille est nécessairement que c'est sa version des choses.
Exact.
Il n'y avait pas une caméra qui nous donne une autre version, une autre perspective, mais nous, on va travailler avec cette représentation-là. Puis on le sait, on le prend pour acquis. La pire affaire qu'un intervenant, un psy, peut faire, par exemple, une personne vient consulter pour des problèmes de couple. Elle vient toute seule consulter pour des problèmes de couple. Mais là, il y a un non-sens. Si c'est des problèmes de couple, il faut que ça se traite en couple.
Ouais.
Parce que la version ou la représentation que la personne va nous donner, c'est une chose, puis on va l'accueillir dans ça, puis on la croit dans ce qu'elle nous dit. Mais on le sait pertinemment que tout ça entre en résonance avec ses blessures. Peut-être que quand elle était plus jeune, la personne a été abandonnée. Puis qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui crée un petit sentiment d'abandon, la personne a vu ça hyper intensément, puis elle présente l'autre comme étant un pas de bon sens, puis etc. Mais ça, nous, on le sait. Mais l'élément magique, je dirais, de la relation thérapeutique, c'est ce qui se produit dans les autres relations va se reproduire dans la relation thérapeutique.
On reprend toujours.
On a des patterns. Ouais, okay. Fait que là, ça se reproduit dans la relation thérapeutique. Mm-hmm. Et c'est là que ça devient payant, dans le sens que, ben, dans la relation thérapeutique, nous, on a une grille de compréhension. On observe des phénomènes. On prévoit le fait qu'on va sûrement décevoir la personne, qu'à un moment donné, elle devrait avoir l'impression qu'on l'a abandonnée ou qu'on ne l'a pas bien compris.
Ou que vous la confrontez parfois.
Tout ça, ouais. Ça fait partie de la relation thérapeutique, mais on va le travailler à chaud. Fait que là, les changements, on va les faire à travers la relation thérapeutique. Oups, j'ai accroché le micro. Puis après ça, la personne retourne dans sa vie. Puis il y a des connexions qui vont se faire. Cette conversation-là qu'elle a dans le bureau, elle finit par l'intérioriser. Au début, elle va dire, « Ah là, Marc-André dirait telle affaire. Oh, regarde donc, mon conjoint, il a fait telle chose, là, je t'en furie, moi, là, là. Ça touche à une petite blessure que j'ai là. Marc-André me dirait ci ou ça. Puis tranquillement, pas vite, la personne, ça devient son propre discours intérieur. Sa propre conscience, ça développe sa capacité à prendre un recul par rapport à ce qui se vit, à analyser un peu, puis à agir différemment.
OK. Ma deuxième question, avant mon préjugé. Prépare-toi. La deuxième, c'est pourquoi on n'enseigne pas aux jeunes à gérer leurs émotions au primaire, au secondaire? Pourquoi il n'y a pas des psychologues qui peuvent prendre des classes au grand complet ou prendre, je ne sais pas, toutes les secondaires 1, secondaire 2, secondaire 3, puis leur montrer des bases, des techniques de psychologie qui vont faire en sorte qu'ils vont être capables de se libérer de leurs émotions, puis peut-être avoir de meilleures interactions avec les amis, avec les conjoints, les conjoints?
Ben oui, mais ça, okay, écoute. Pars-moi pas là-dessus.
Deux fois, tu me dis ça.
Ben oui, qu'est-ce que c'est ça, cette entrevue-là?
Tu
non, mais...
Tu vas être obligé de me refaire une place dans ta liste.
Ah, ça n'a pas le choix. Non, mais sérieusement, je suis d'accord avec toi.
Ouais.
Pourquoi la santé mentale, c'est pas un sujet incontournable dès les premières années à l'école, mais aussi pour les parents en général, tu sais, comme sensibilisation? Pourquoi on ne vit pas dans un monde qui fait en sorte que la santé mentale est une priorité? Écoute, ça influence ton regard sur toi-même,
ouais,
sur les autres, sur la vie. Puis dans un ordre de priorité, là, ça se retrouve à une petite session lors d'une journée thématique, à un moment donné, un conférencier qui va venir sur l'heure du midi. Tu sais, c'est pas assez. Tu sais, comme choix de société, il faudrait que ça soit une priorité, qu'on l'enseigne, effectivement, qu'on l'enseigne aux enfants, aux parents. Mais une autre affaire, pour dire que c'est vraiment important, il faut aussi que quand tu as besoin d'aide, ben, tu puisses avoir des ressources. Tu sais, c'était si important que ça, la santé mentale dans notre société, comme on peut l'entendre des fois dans des semaines thématiques. T'sais, on est bon au niveau des paroles. Tu sais, ah, c'est important, mais c'est beau les paroles, mais c'est les actions qui comptent. Fait que concrètement, ben, si tu as besoin d'aide, tu vas voir ton médecin, que c'est possible qu'il te réfère à un psychologue puis que ça prenne pas un an avant que tu rencontres quelqu'un. Ça dit, ben oui, c'est vraiment important. Mais tu as raison. Moi, souvent, ce que j'entends, là, c'est drôle, ça fit exactement avec ce que tu viens de me dire. C'est des gens qui viennent consulter, puis une fois qu'ils ont fait leur cheminement, ils disent exactement ça. Oh, mais veux-tu me dire pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à quel point? C'est quoi l'autonomie affective? Tu sais, c'est quoi être capable de se regarder?
C'est quoi être aimé? C'est quoi aimer?
Exactement. C'est quoi l'empathie? C'est quoi l'importance que ça a? À quoi ça mène quand on haït tout le monde puis qu'on entre en conflit à gauche puis à droite à tout bout de champ? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on fait ça? Mais on parle pas de tout ça, tu sais, puis on avance là-dedans, les gens se blessent, les gens sont déçus, les gens vivent des crises. Tu sais, je suis peut-être un peu idéaliste, mais je sais pas, moi j'ai l'impression que si la Terre existe encore, mettons, dans 1000 ans, ben ils vont regarder l'époque d'aujourd'hui, puis ils vont se dire, OK, ils n'avaient pas compris, eux autres. Tu sais, c'est tellement important, la santé mentale, je trouve qu'on n'est pas rendu loin encore là-dessus.
Marc-André Dufour, la question qui tue, c'est mon fameux préjugé, puis je te dirais que dans ma tête, j'ai évolué un peu plus, là, mais tu sais, pour avoir voyagé régulièrement ailleurs, sur d'autres, dans d'autres pays, je constate qu'on est des privilégiés ici.
Absolument.
Puis je constate qu'à certains endroits, ils n'ont absolument rien, puis ils ont toujours le beau sourire dans le visage, avec les belles dents blanches, sont encore hyper fiers, même si ils passent leur journée assis sur une roche plutôt qu'une belle chaise de par terre. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'eux autres peuvent trouver le bonheur dans la misère, alors que nous, on les regarde en disant « c'est bon, moi, de même, je serais magané
».
Versus ici, on a l'impression qu'on perd tout, mais finalement, avec le panier de services qu'on peut avoir, on n'est pas aussi pauvre que ces gens-là peuvent l'être.
Ah oui.
Mais on est encore plus triste que ceux qui sont heureux là-bas puis qui n'ont rien.
Ouais, ben il y a le panier de services, mais il y a toute la question de l'abondance, là. On fait partie des ultra-privilégiés de la planète. Fait que, tu sais, il y a lieu de se questionner, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ait des taux de suicide aussi élevés? Il y a comme un paradoxe à travers tout ça.
Ouais.
Mais la société de consommation crée énormément de besoins, de désirs, d'attentes. On veut avoir la maison parfaite, la famille parfaite, la voiture parfaite, etc. C'est une course qui n'a pas de fin. Puis tout ça crée énormément de détresse. Puis d'une manière un peu paradoxale, lorsqu'on est face à une situation dans laquelle on doit se rapprocher de nos besoins fondamentaux. Tu sais, si toi puis moi, aujourd'hui, notre principale préoccupation, c'était qu'est-ce qu'on va manger pour souper? Puis qu'est-ce qu'on va apporter à notre famille pour qu'on soit capable de manger? Bon, on serait pas en train de se parler, là.
Non, non.
Parce que...
Je pars en bobette le matin avec mon arc à flèche, puis on s'en va.
Non, mais...
On va chercher le bon dosard.
Ben, non, mais c'est ça. Tu sais, quand on est proche de nos besoins fondamentaux, ben, ça replace les valeurs d'une certaine façon.
Mm-hmm.
Mais si on est dans un système dans lequel on a des attentes face à nous-mêmes, on est bombardé de publicités, d'images, de performances, de ci, de ça, on finit par croire que pour être heureux, il faut avoir une vie qui ressemble à la vie des gens riches et célèbres. Puis, je sais pas si tu te souviens, là-dedans, ils sombraient toujours dans l'enfer de la drogue.
Oui!
Hein, c'était tout le temps comme ça.
On parlait de Matthew Perry tantôt, j'ai regardé ce qui restait à sa mort, au-dessus de 120 millions, tu sais. Mais malgré tout ça, le gars, il avait la célébrité, le gars avait l'argent, tout le monde semblait l'aimer, son entourage, il y avait une famille qui semblait être présente aussi. Malgré tout ça, il était dans la drogue, puis c'est la raison pour laquelle il est décédé.
Non, c'est vraiment triste. D'un autre côté, j'ai le goût de dire, tu sais, la question des inégalités sociales, c'est vrai qu'on est des ultra-privilégiés, mais, tu sais, on peut regarder ça de loin, toute la question des autres cultures qui vivent des situations difficiles, puis oui, peut-être qu'ils ont l'air bien, puis tout le kit, mais il reste que de ne pas être capable de manger à sa faim, de vivre une violence, que ça soit gouvernementale, de ne pas avoir de droits et libertés, etc., c'est assurément pas ça qui nous rapproche du bonheur. C'est parce que dans ce contexte-là, c'est des gens qui ont pas nécessairement le choix, qui ont d'autres enjeux auxquels ils doivent faire face. Mais nous, c'est ça qui est bien dramatique, c'est qu'on est des ultra-privilégiés, mais on n'a pas cette gratitude-là.
Ouais.
On n'a pas cette conscience-là.
Moi, je l'ai quand je pars, quand je constate, mais je l'ai surtout quand je reviens.
Ouais.
Il n'y a pas de criminalité ici. Il y a de l'eau chaude. J'ai de l'eau potable à même ma champlure.
Ouais.
Tandis qu'ailleurs, tu te poses tout le temps les questions à savoir, j'ai plein d'affaires à faire. J'ai pas de ressources autour de moi.
Ah oui, c'est ça. Puis aussi, quand on perd la santé ou quand une personne proche de nous tombe malade ou quand on se retrouve malheureusement au salon funéraire pour une personne qui avait 35 ans ou qui avait 40 ans. C'est plate, mais des fois, c'est comme des coups de pelle comme ça de la vie qui nous font comme dire « OK, à ta peau, là. Ça se peut que je passe à côté de l'essentiel, là.
Ouais.
Ça se peut que de prendre soin de moi, d'être entouré de mes proches, de dire au monde que je les aime, de sortir de l'espèce de course folle dans laquelle on est, dans laquelle on se plaint. T'sais, c'est bien beau la semaine dans le sud une fois par année, mais le reste des semaines, toute l'année, si tu as la langue à terre, puis que tu es épuisé, puis que tu es irritable, puis que je trouve ça un peu triste. Tu sais, il y a une réflexion à avoir sur nos modes de vie, sur nos priorités, sur la manière dont on utilise tout notre argent, puis ce que ça donne. Puis là, j'embarque pas dans l'impact de tout ça sur la planète, etc., etc. Il y a des grosses réflexions à faire sur le mode de vie occidental, mais vraiment de s'arrêter, d'entrer en contact avec son monde intérieur puis de se poser la question « comment je vais sincèrement? » Puis si on est un dimanche après-midi puis qu'on avait des projets qui sont annulés puis on est tout seul à la maison puis qu'on se sent triste, qu'on a le goût de brailler puis qu'on n'est pas bien, bien, il n'y a pas de tristesse dans le dimanche après-midi. Ça veut dire que c'est en dedans de nous.
Ouais.
Mais souvent, on est tellement à la course qu'on ne prend même pas le temps de s'arrêter pour se demander comment on va. Puis les émotions qui sont douloureuses, c'est comme la douleur physique. Tu sais, si tu as mal à quelque part, que tu fais rien, que tu t'endors tout ça, puis que tu engourdis ça, puis tu continues, tu vas te blesser encore plus. Fait que si tu as une douleur dans ton monde intérieur, faut pas que tu te sauves. Faut pas que tu t'agèles. Faut pas que tu te saoules. Faut que tu regardes. Faut que tu te dises qu'est-ce qu'elle me dit, cette douleur-là.
Parce que plus ça s'accumule, j'imagine, plus ça devient insoutenable.
C'est ça, mais si on ne prend jamais le temps de s'arrêter, ce qui se produit, c'est que ça finit par casser. Puis il n'est jamais trop tard. Mais prenons dès maintenant le temps de s'arrêter, de se demander sincèrement comment je vais, comment les autres autour de moi y vont. Tu sais, on le demande vite, vite, mais on ne s'arrête pas toujours pour entendre la réponse. Mais prenons le temps de s'informer de nous-mêmes, des autres, de prendre soin de nous. Puis si on est inquiet, si l'idée du suicide nous effleure l'esprit, suicide.ca, allez voir là-dessus. C'est possible aujourd'hui d'échanger en ligne avec un professionnel, d'appeler un numéro de téléphone.
C'est très clair.
N'hésitez pas à demander de l'aide.
Marc-André Dufour, psychologue clinicien, t'as écrit le livre « Se donner le droit d'être malheureux ». C'est un titre qui frappe, on va se le dire. D'où t'es venue l'idée d'écrire ce livre-là?
Ça m'habitait depuis vraiment longtemps. À un moment donné, j'ai eu une offre comme ça. C'est Nadine Lauzon, qui était éditrice à ce moment-là pour Librex, qui m'a écrit. Qui m'a dit, elle m'avait vu une émission avec Étienne Boulay, une émission avec Marine Orsini. Puis elle me dit, c'est intéressant, qu'est-ce que tu as à dire, tout ça, ça tenterait-tu d'écrire quelque chose? J'ai dit, peut-être, j'avais laissé ça aller. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais le faire. C'est vraiment parce que c'est comme si, à force de voir des gens dans mon bureau, que souvent, il y avait des choses qui revenaient. Et c'était ça, la difficulté d'accepter de se sentir vulnérable et de se montrer vulnérable, à quel point ça pouvait amener les gens dans des situations qui étaient vraiment, vraiment, vraiment regrettables, des situations que les gens ont honte, qui ont l'impression qu'ils ne sont pas normaux, qu'ils se jugent. Là, je me suis dit, ah non, c'est assez. Là. Puis on est beaucoup bombardé de clés du bonheur, recherche du bonheur, coach de vie, fais ci, fais ça, tu vas voir, ta vie va être merveilleuse. Puis honnêtement, ça m'agace quand même beaucoup. Fait que là, je me suis dit, ah non, c'est assez. Là. C'est pas vrai, les malheurs font partie de la vie. Puis on a le droit de vivre sa tristesse quand on a envie. Puis je me suis dit, bon, ben, regarde, je vais mettre tout ça dans un livre. Et ça m'a pris 4 semaines à écrire.
Oui.
C'est comme je me suis assis, j'ai pris des
vacances.
T'as
écrit ça vite, là?
Oui, mais c'est parce que je l'avais dans la tête depuis 15 ans. C'est ça. Tu sais, fait que ça a sorti comme ça. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai beaucoup de rétroactions, puis ça me touche énormément. Entre autres, j'ai des rétroactions de gens qui ont perdu un proche par suicide. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Puis qui me disent, ah, je comprends peut-être un peu plus qu'est-ce qui s'est passé. Puis moi, aujourd'hui, maintenant, j'irai chercher de l'aide. Ça me fait tout le temps plaisir. J'ai eu un message à un moment donné, c'est un gars qui habite dans le Nord, qui a lu mon livre, puis qui a dit, hey, là, je me promène avec ce livre-là, puis quand j'ai un chum qui va pas bien, je dis, il faut que tu lises ça. Ben, moi, quand j'entends ça, là, je suis comme, il est distribué en Chine, peux-tu imaginer? Tu sais, moi, je me disais, si ça aide une personne, je vais être content. Ouais. Quand j'ai appris ça, j'ai fait comme...
Wow. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est universel. Ça peut fonctionner pour monsieur et madame tout le monde. Tu parles des sources de désespérance.
Oui.
Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi des sources de désespérance? Bon, rapidement, désespérance. Bon, désespoir, t'es désespéré de quoi? Ben, la violence peut-être dans le monde.
Il y a ça, la violence, les inégalités qu'il peut y avoir.
Ouais.
Tout ce que... C'est assez récent aussi dans l'histoire de l'humanité qu'on a l'impression que l'avenir ne sera pas rose. T'sais, si on recule de 300 ans, 200 ans, on pouvait toujours penser avec le progrès, ben, tu te souviens, tu étais peut-être un peu plus jeune que moi, mais tu sais, les années 2000, là, les voitures volantes, on va avoir trouvé des remèdes à toutes les maladies.
À chaque fois dans nos têtes, on s'éloignait des souffrances que l'homme pouvait avoir.
Exactement. On imaginait un monde qui était toujours comme meilleur et mieux.
Ouais.
En 2024, là, faire ça, avec les réchauffements climatiques, tout ce qu'on voit, c'est comme si l'avenir dans lequel on se projette, tout d'un coup, il ressemble un peu plus à un casse-tête. T'sais. Fait que dans ça, je te dirais, ça peut être quand même assez décourageant.
Ben, tu sais, moi, je veux dire, je pensais que j'étais invincible.
Ouais.
Parce que je pouvais tout faire. Quand la pandémie est arrivée, j'ai pogné mon 2 minutes parce que là, c'est plus moi qui contrôlais ma vie, d'autres personnes qui contrôlaient ma vie.
Ah non, mais c'est ça, c'est incroyable. Mais ça a été comme une espèce de pratique générale d'à quel point que comment ce qu'on prend pour acquis, des fois, ça peut prendre le bord assez rapidement. Donc, les sources de désespérance, c'est un peu ça. Dans le fond, l'idée, ça faisait partie du trip de se donner le droit d'être malheureux. J'avais le goût de commencer de ce livre-là en disant, non, il y en a des bonnes raisons d'être découragé. C'est juste les désillusions. Tu sais, dans la vie, tu dis, ah, moi, j'aimerais ça avoir... Quand tu étais jeune, puis tu penses qu'à 30 ans, ta vie, ça va être ça, puis à 40, puis tu arrives finalement, tu es séparé, ça n'a pas bien été, tu n'as pas la job que tu voulais, tu n'as pas... Mais ça, c'est la vie. Mais si on pense qu'on n'est pas normal, que c'est honteux, puis qu'on n'est pas bon, puis qu'on vaut rien, puis que ça va toujours être comme ça, c'est pas mal plus difficile que de dire à tout le monde, non, c'est pas vrai. Tu sais, la vie, c'est pas un jardin de roses. Les épreuves, il va en avoir. Puis il y a des gens qui nous écoutent, là, qui vont super bien. Ça durera pas. Je suis plate, hein? Ouais. Mais c'est comme ça. Puis j'aime mieux qu'on se le dise, qu'on le reconnaisse. Fait que si ça nous arrive, qu'on reste pas seul avec ça, qu'on en parle à nos proches, qu'on aille chercher de l'aide. C'est ça, l'idée, dédramatiser la souffrance, dans le fond.
Des sources de désespérance, les gens qui se comparent sur les réseaux sociaux, puis ils ont tous... Oui. On dirait que, bon, ils peuvent avoir un biais, c'est-à-dire, je sais pas, moi, quelqu'un qui se trouve trop gros va aller sur les réseaux sociaux, va voir des gens qui sont minces, va dire, hey, tabarouette, moi, je suis pas mal plus gros que ça. Les autres, ils ont de l'air heureux, regarde, ils sont souriants. Moi, je te... Hey, tabarouette, il y a SS-PAC, moi, je suis loin de ça. Fait que tu désespères tout le temps.
Des comparaisons négatives. Tu sais, peu importe ce qu'on nous présente, on a toujours l'impression que nous, c'est pas correct puis qu'il y a mieux à quelque part. Tu sais, si on revient à une époque où est-ce qu'on se comparait juste avec
les voisins,
les autres du village, puis on jouait dans la rue, puis la réalité du voisin, souvent, elle ressemblait beaucoup.
Exact.
Tu sais, il y en avait un qui avait un Atari, on le trouvait hot, là, tu sais, puis il y en avait un autre qui avait une piscine, ça, c'était comme, wow, c'était privilégié. Mais on n'était pas exposé à la planète entière, à travers une réalité qui a souvent une réalité, j'ai le goût de dire, augmentée, là, avec des filtres dans lesquels tu as juste un angle, tu sais, puis que c'est comme la perfection. Il y a de quoi dans ça qui peut vraiment être lourd. Puis ça aussi, c'est de montrer que ça peut vraiment affecter le moral, cette espèce de comparaison-là qui finit plus.
T'es célibataire, la pire des idées que tu peux avoir, c'est d'aller sur les réseaux sociaux le jour de la Saint-Valentin. T'es seul à Noël, non, la pire des affaires à faire que tu peux faire, c'est d'aller voir les photos de famille de tout le monde à Noël sur les réseaux sociaux.
Ouais, non, c'est ça. C'est de se faire du mal, c'est de sortir de cette réalité-là. Puis j'aurais le goût de leur dire, ben là, à Saint-Valentin, là, allez faire du bénévolat à l'Aube-Rivière. Là, je veux dire, vous allez en voir du monde, puis vous allez voir que c'est possible de donner de l'amour en donnant de la soupe aussi, puis ça peut faire du bien autant à la personne qui reçoit qu'à la personne qui donne.
La génération spontanée du bonheur,
oui.
C'est quoi ça?
La génération, ouais, OK. Combien de temps on a encore? Non. Mais en fait, là, il y a une vieille théorie, ça remonte à plusieurs centaines d'années. Là. La génération spontanée, c'était, à une certaine époque, il y a des gens qui pensaient que pour faire apparaître la vie, il fallait réunir les conditions favorables à son apparition. Je prends un exemple, sinon on ne se comprendra pas. Là. Mettons, je dis, je prends une boîte, je mets de la paille, de l'eau, je vais porter ça dans une étable, j'attends 2 semaines, pouf, il apparaît des souris. C'est comme si c'était magique de même. Évidemment, Pasteur, la science, a comme démontré que tout ça avait comme pas tellement rapport, mais je trouve qu'avec le bonheur, on a un peu cette relation-là dans le sens qu'on réunit les conditions qu'on associe culturellement au bonheur. Donc, tu sais, si j'ai tel type de maison avec tel type d'auto, puis tel type de famille, puis un chien, normalement, le bonheur devrait apparaître. Puis souvent, il apparaît, puis c'est tant mieux. Mais une fois qu'on a tout ça, c'est pas rare que tout d'un coup, on va avoir besoin d'autre chose. On va avoir besoin de changer les conditions parce que là, tout d'un coup, on se sent encore vide, on n'est pas encore bien, il y a quelque chose de pas correct. Fait que là, on va changer. Soit on va déménager, on va rénover, on va faire un voyage, on va faire n'importe quoi dans le fond pour changer les paramètres, mais on est beaucoup dans l'extérieur. On se crée des besoins, puis on se dit, si je fais tel projet, si j'achète tel type d'auto, je vais être bien. Puis ça marche sur le coup, mais souvent, c'est comme une fuite par en avant. Puis ce qui nous angoisse, ce qui nous fait du mal, bien, c'est rarement avec des choses à l'extérieur qu'on va être capable de le combler. Fait que c'est de sortir de cette espèce de fuite-là tout le temps pour regarder qu'est-ce qui se passe en dedans, plus profondément, plutôt que de tout le temps changer les conditions extérieures.
Moi, Marc-André, dans ton livre, « Se donner le droit d'être malheureux », au départ, je pensais pas pouvoir me reconnaître là-dedans parce que j'ai l'impression d'être heureux, foncièrement heureux. Y a-tu des affaires qui me déplaisent? Ben oui.
Normalement.
Y a-tu des journées où ils sont plus tristes que c'est plus triste que d'autres? Ben oui, des fois, le Canadien perd. Mais,
ça, c'est blague. Le drame.
Mais quand tu parles d'évitement, là, hein? Là, ça m'a frappé. Là, il m'a-t-il écouté à la radio? Pourquoi on fait de l'évitement en tant qu'être humain? Puis est-ce que c'est bon de le faire une fois de temps en temps, l'évitement?
Ben oui.
T'sais, des fois, mes enfants, je suis pas trop interventionniste là, parce que je me dis qu'à un moment donné, il faut qu'ils réussissent à s'entendre. Mais des fois, je dois intervenir. Mais des fois, je suis juste plus capable, Marc-André, puis je fais de l'évitement.
Ben
c'est,
oui.
Ce qui se passe là, je ne l'entends pas, je le vois pas, ce n'est pas mes enfants, ce sera mes voisins d'intervenir.
Ouais, ouais, c'est ça.
Mais je pèle ça par en avant.
Oui, mais c'est une question de dosage. Là. Dans le fait, en fait, l'évitement, là, c'est assez simple. Tu sais, si la douleur, tu sais, l'être humain, là, tu ne mets pas ta main dans le feu parce que tu sais que ça fait mal.
Ouais.
Fait, quand ça fait mal, normalement, tu ne vas pas là. C'est associé à la survie de notre espèce. Mais si on applique le même principe à la douleur psychologique tout le temps, bien, quand on se sent inconfortable, si on se sent triste, si on se sent coupable, si on se sent honteux, si on se sent en colère, on dit « ben moi, je ne vais pas là parce que je me sens pas confortable ». C'est un genre de réflexe, tu sais, puis c'est bien humain.
Est-ce qu'on repousse ça plus tard, quand on fait de l'évitement?
Bien, je vous dirais, si on repousse ça plus tard, c'est moins pire. Dans le sens qu'on se dit, bien, pour de vrai, puis c'est très efficace comme stratégie. Tu sais, mettons, tu es super occupé, tu as plein d'affaires à faire, puis que là, tu files pas tout d'un coup, mais là, tu n'as pas le temps de t'occuper de ça. Tu mets ça de côté, mais tu te dis, en fin de semaine, là, dimanche, là, j'ai du temps pour moi, je vais aller prendre une grande marche dans le bois, tu sais, puis je vais aller réfléchir à tout ça. Là, je dis bravo. Tu sais, parce qu'on peut pas tout le temps s'arrêter. Tu es à l'épicerie dans l'allée des légumes, tu sais, puis tu files pas. C'est peut-être pas la meilleure place pour faire une introspection. Fait que finis ton épicerie, va-t'en chez vous, puis plus tard dans la soirée, trouve-toi un moment. Mais l'important, c'est de se faire moi, j'appelle ça des mises à jour émotionnelles. Tu sais, on le fait avec nos appareils électroniques. Si on ne fait pas nos mises à jour, c'est quoi qui arrive? Bien, ça plante, ça bug quand ce n'est pas le temps. Puis quand on les fait, ça prend une éternité. Mais sur le plan psychologique, c'est exactement la même affaire. Si on ne s'arrête pas de temps en temps pour regarder comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on devrait changer dans notre vie, nos valeurs, c'est quoi nos valeurs les plus importantes, les valeurs les plus profondes? Est-ce que ma vie est orientée sur mes valeurs? C'est pas des questions qu'on se pose tout le temps, puis c'est correct qu'on se les pose pas tout le temps, mais il faut se les poser de temps en temps. Mais c'est sûr que si, par exemple, à toutes les fois que vous allez au centre d'achat, vous devenez super anxieux quand il y a du monde, puis que la seule solution que vous avez, c'est de ne plus y aller, bien, dans un contexte comme celui-là, l'évitement fait en sorte qu'on entretient la peur. C'est juste d'en prendre conscience, bien, qu'est-ce qui me rend anxieux? Puis c'est d'y aller tranquillement quand il y a moins de monde, puis s'exposer. Fait que c'est vrai pour certains troubles anxieux, mais c'est vrai pour n'importe quelle forme de détresse. Puis quand on va consulter, de s'asseoir en avant d'une personne là, qui regarde comment on va, hey, c'est pas confortable. Les premiers rendez-vous, souvent, les gens, ils sont comme pas à l'aise, ils sont stressés dans la salle d'attente. Là,
ouais.
Parce que de s'arrêter puis qu'on mette comme le gros spot en avant là, de qu'est-ce qui se passe dans ma vie.
Ouais, mais tu sais, pour certains, Marc-André, quand les gens vont te voir, c'est la première fois qu'ils vont se livrer à quelqu'un, idéalement sans filtre,
ouais.
Sans filet. Ils savent pas comment ça va virer. Tout ce qu'ils veulent, c'est se libérer des problèmes qu'ils ont.
Ouais.
Ça fait sacrément mal. Le gars qui est en avant de moi, j'espère qu'il ne me jugera pas, mais anyway, je suis rendu là, faut que je dise tout ce que j'ai à dire, puis après ça, tu vas l'aider, mais c'est un step pour des gens qui jasent jamais. T'sais, moi, honnêtement, j'ai jamais parlé de toute ma vie à quelqu'un, de toute ma vie en général.
Ah oui, sans filtre, là, puis...
Je parle à ma conjointe, je l'adore, j'ai fait aucun mensonge. Mais j'ai eu mon jardin secret des trucs que je peux avoir vécu quand j'étais jeune, des malaises que je peux avoir vécu avec mes anciennes conjointes. J'ai mon jardin secret, mais quand tu parles de constamment éviter ou de toujours accumuler des douleurs à l'intérieur de toi puis de ne pas les régler, là, tu t'en vas devant un individu que tu ne connais pas, que tu te dis, ben là, il est psychologue, il ne me jugera pas. Pour un gars ou pour une fille qui n'a jamais fait ça de sa vie, c'est un step. Là.
Ça prend énormément de courage, sérieusement. Puis souvent, les gens, là, après le premier rendez-vous, je ne vais pas les décourager, mais sont brûlés. Parce que...
c'est des émotions. Là.
Ah, c'est des émotions. C'est tellement... Mais tu sais, comme professionnel, on y va pas en sauvage non plus.
Non.
Tu sais, on prend le temps d'accueillir, on explique qui on est, comment on va travailler, tu sais, puis on fait du small talk aussi, là, tu sais, ça a bien été pour trouver le bureau, là, tu sais, je veux dire, on arrive...
aussi.
Il faut, là, qu'on crée comme une espèce de petite zone de confort minimum. Tu sais, on n'arrive pas en disant, dis-moi comment tu te sens, tu sais, puis t'as-tu vécu des traumatismes dans ton enfance, là? Tu sais, ça se fait pas de cette façon-là. Mais c'est sûr que c'est une relation qui est unique. C'est comme une relation en laboratoire. T'sais, ça n'existe pas dans aucune autre sphère. Une relation thérapeutique, c'est vraiment unique. Puis c'est ce qu'on explique aussi. T'sais, comme moi, par exemple, j'utilise le « vous » constamment. Puis le monde dit « Ah ouais, comment ça? » Ben, c'est une relation qui est chirurgicale, professionnelle. La personne va aborder des sujets d'un niveau d'intimité qu'elle n'a jamais abordé avec personne. Mais c'est comme si l'utilisation du « vous » c'est comme si ça se fait dans un contexte qui est plus sécuritaire. Tu sais, on n'est pas des amis.
Ouais.
Je suis un professionnel. Tu sais, au même titre que quand tu vas voir le médecin puis qu'il t'examine, là, tu sais, il y a une chemise blanche puis un stéthoscope dans le cou. Là, tu sais, je veux dire, il y a comme une espèce de cadre professionnel autour de tout ça. Et ce cadre-là, la rencontre, elle dure une heure. On sait que ça dure une heure. C'est sécurisant. C'est comme si on plonge, mais dans un cadre qui est prédéterminé. Après ça, on retourne dans notre réalité. Puis cet échange-là a lieu dans ce lieu-là. Aujourd'hui, des fois, en ligne, il y a des rencontres visioconférences aujourd'hui qui se font de plus en plus. Mais c'est un cadeau vraiment à se faire.
Ah oui, je pense
c'est
puis,
vraiment.
Tu sais, un autre exemple que je peux te donner, mais ça sort un peu de ton métier. Je jasais avec une fille qui a travaillé pendant des années où il se bosse pas, qui est un super de bel endroit, puis elle a reçu... Il y a un client qui l'a marqué. C'est un client de 70 ans. C'était la première fois qu'il allait se faire... qu'il allait en massothérapie où il se bosse pas, avec des spas et tout ça. Puis là, ben il y a eu un certificat cadeau pour se faire un massage de 60 minutes.
Mm.
Elle l'a entendu pleurer pendant 40 minutes.
Eh, ben oui.
Mais elle continuait, puis elle l'entendait pleurer. Puis à la fin, quand il s'est levé, « Merci beaucoup, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. » Elle dit « Ben, je suis un peu hésitante parce que là, je vous entendais pleurer. » Il dit « C'était la première fois que je me laissais aller à me faire toucher. »
Ah non, tout à fait. On se doute pas.
70 ans.
Ben oui, mais oui, c'est ça.
Puis là, pour la première fois de sa vie, il se faisait toucher, il se faisait faire du bien. Il était heureux, il avait de la chaleur humaine.
Ouais.
Puis il s'est libéré. De se libérer, tu te sens un peu plus léger. J'imagine que c'est la même chose quand les patients qui passent dans ton cabinet, qui te disent des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne, à quel point ça doit faire du bien, puis à quel point ils doivent se sentir légers. Puis tu sais, c'est un outil de travail, là, se donner le droit d'être malheureux, ton livre que tu as fait. Puis les gens doivent le lire. Ils peuvent se le procurer à quel endroit, Marc-André?
Ben, il est disponible partout. Il est vraiment de n'importe quelle librairie. Là, vous pouvez aller sur le site Internet.
Normalement, faut dire dans toutes les bonnes librairies.
Ah, exactement. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies.
c'est ça. Tu vas toujours revenir à un moment donné.
Ben, je le sais. C'est pas drôle.
On va se céduler une date là, dans les prochains mois parce que tu es très occupé. Mais on va se céduler une date. Puis on jasera de sujets peut-être un peu plus précis par rapport à la psychologie. Là, tu es venu nous présenter ton livre « Se donner le droit d'être malheureux ». Puis je suis pas mal persuadé que je vais aller voir les textos tantôt, puis il va y avoir une multitude de questions que les gens vont avoir posées, mais là, j'y ai pas accès. J'aurais aimé y avoir accès.
On s'en verra.
Ben, on n'aura pas le choix. Tu vas être obligé de revenir. Pour des gens qui voudraient en savoir plus sur toi, site Internet?
Ah, même pas. Non, je suis vraiment pas techno, pas en tout.
T'as-tu une page Facebook?
J'ai une page Facebook, puis sur ma page Facebook, dans le fond, mes publications publiques
Ouais.
C'est des les gens peuvent s'abonner à mes publications publiques. Puis je suis collaborateur à Salut Bonjour aussi.
Ben oui, ben oui.
Ils peuvent me suivre.
La belle face à Salut Bonjour une fois de temps en temps.
Ben oui, si tu veux.
Marc-André Dufour, merci.
Merci à toi, Yannick.
Bye bye. On fait une courte pause, on vient.